Chapitre 22. L'éducation des petites filles. Brandissant un bâton plus lourd qu'elle, Bernique assomma le vieillard qu'on lui avait présenté. « Maintenant, on rentre !» cria son père qui la regardait faire de loin. La petite fille ne répondit même pas. Alla se planter devant le vieil homme qu'elle venait de frapper et posa la main sur le crâne dégarni. « Ça pousse !» dit-elle. « En effet !» Une belle bosse était en train de pousser. C'était la cinquième. Il était largement l'heure de rentrer. Gulsalzan avait deux soucis. Le premier, c'était la prison de 1000 personnes qu'il dirigeait. Cela, il en faisait son affaire. Ses méthodes n'étaient pas forcément très réglementaires, mais elles satisfaisaient le grand voisin. Gus habitait avec sa fille au cœur de la boule de Guy de Tombes, dans le nœud central, d'où partaient toutes les ramifications. Il maîtrisait tout. L'autre souci de Gus, le vrai, c'était justement sa fille, Bernique. Depuis quelque temps, il s'inquiétait de son évolution. Bien sûr, il savait qu'âgé de 10 ans, Bernique était appelée à changer, à mûrir, à devenir une vraie jeune fille. On lui avait dit « C'est normal, à cet âge-là, il se passe tellement de choses ». Au début, il avait donc regardé avec une certaine tendresse Bernique qui cassait les meubles ou étranglait ses gouvernantes. « Comme elle grandit !» se disait-il. « C'est le portrait de son parrain !» Le parrain de Bernique s'appelait Jomitch. Gus laissait donc sa fille agir à sa guise. Il lui prêtait même quelques prisonniers en fin de course pour assouvir sa passion des bosses. Mais après quelque temps, Gulsalzan commença à s'inquiéter. En fait, il s'était soudainement souvenu qu'il devrait un jour marier sa fille. Cette préoccupation était sûrement prématurée, mais il se disait que plus le chemin est redoutable, plus il faut partir tôt. Dans le cas de Bernique, le chemin s'avérait particulièrement redoutable. Ce n'était même pas un chemin, c'était la jungle primitive. À 10 ans, elle avait déjà quelques habitudes assez peu convenables pour une jeune fille de bonne famille. Passons sur les prisonniers assommés, il l'avait bien cherché. Passons sur les gouvernantes étranglées, elles étaient peut-être fautives dans leur méthode d'éducation. Mais le premier acte grave, elle le fit avec un cuisinier de tombe, dont elle plongea le doigt dans l'huile de friture pour qu'il le mange lui-même en beignet, sur l'os. Gus renvoya le cuisinier qui n'était plus bon à rien, mais il réprimanda Bernique en la privant de dessert. À partir de ce jour, il décida d'agir. C'est alors qu'il entendit parler d'un homme tout à fait étonnant qui était une sorte de maître en politesse et en savoir-vivre. Ce n'était qu'un simple sous-chef arrivé à Tombes pendant l'hiver. Sa réputation s'était transmise rapidement et en agaçait plus d'un. Toujours souriant, il parlait un langage fleuri et se faisait appeler Patate. Patate arriva un samedi matin dans la maison des Alzans. « Mes meilleures salutations, » dit-il à Gus. « Les miennes avec, » répondit maladroitement le directeur. « On m'a dit que vous me faisiez appel de venir. C'est trop d'endurance de votre part. Quoi ai-je l'honneur de vous intéresser ? C'est ma fille. » « Votre fille ?» répéta Patate avec un grand rire sonore qui n'avait rien à voir avec le sujet. « Ben oui, ma fille, Bernique. »« Bernique ?» s'exclama Patate toujours dans un rire suraigu assez désagréable à entendre. Gulsalzan lui prit la totalité du visage dans la main, l'écrasa un peu et plaqua Patate contre la porte de son bureau. « Qu'est-ce qui te fait rire, Patate ?»« Rien, c'est juste pour détendre un peu. » « Bon, je veux que ma fille devienne une demoiselle. » Patate se mit aussitôt au travail. Elle avait vécu avec les plus redoutables guerrieros de Jomitch, mais les 3 jours qu'il passa avec Bernie Calzan furent les pires de son existence. Il pénétra le mardi suivant dans le bureau de Gus. C'était les dernières semaines d'avril, un bon jour de printemps. « Alors ?» dit Gus plein d'espoir. Une auréole noire entourait chaque œil de Patate. Il avait tant de bosses sur le crâne qu'on aurait dit un casque à pointe.
« Je viens vous présenter ma démission, monsieur Alvan. »
Il lui manquait 2 dents sur 3. Il parlait avec difficulté et ne riait plus du tout. Lucalzan, déçu, lui accorda un jour de permission.
« De permission ?»
Patate ne connaissait pas les permissions. Chez Jomitch comme à Tomble, on ne prenait pas de vacances. Y a-t-il des vacances en enfer ? Après cette tentative, Gus perdit courage. Qu'allait devenir sa bernique qu'il emmenait autrefois, petite, chatouiller les condamnés avant la pontance ? De quoi avait-elle manqué dans cette prison ? En guise de petite consolation, il jeta 2 prisonniers aux oiseaux. Les oiseaux sont friands du gui. Ils adorent ces lourds fruits blancs dont il ne faut surtout pas s'approcher en hiver, pour ne pas être croqué par une fauvette ou une grive. Quand il avait besoin de se détendre, le directeur de Tomble asseyait un prisonnier sur un de ses gros fruits et attendait les oiseaux. À la fin du mois d'avril, il ne restait que quelques fruits, mais ils étaient si mûrs que les oiseaux ne tardaient jamais. Gus passa ensuite une nuit détestable. Il rêva de Bernique fonçant sur lui avec 2 grandes ailes. Elle l'avalait tout cru et il terminait englué dans une crotte d'oiseau. Mais, dès le lendemain, on frappa à sa porte.
« Fais-moi !»
Gus reconnut la voix énervante de Patate. Il ouvrit.
« Fais-vous me forriver, le Nord, de discuter une seconde avec vous ?»
Gus faillit l'aplatir. On ne toquait pas chez Gus Alzan comme chez un petit camarade de promotion pour s'offrir un bout de conversation. Ceux qui venaient à sa porte devaient avoir les chocottes à 0 et demander pardon en grelottant sans même savoir ce qu'ils avaient à se reprocher. Mais Patate ajouta, évitant ainsi d'être réduit en purée.
« Fais au fuvette, Bernique !»
Patate n'avait pas plus de dents que la veille, mais il avait retrouvé le sourire. Gus, intrigué, le laissa entrer. Pour une fois, le sous-chef Patate fut très clair. Il avait passé le temps de sa permission dans une branche voisine et avait eu l'occasion de réfléchir à la situation de Bernique. Pour lui, c'était sûr. La petite fille avait un problème avec l'autorité. « C'est tout ?» dit Gus. La découverte de Patate n'était une révélation pour personne. Mais il continua en disant que la solution ne se trouvait donc ni dans un père, ni dans un professeur. « Un quoi ? Un professeur ? C'est tout ?» répéta Gus, dont la main commençait à le démanger. Il s'apprêtait à l'envoyer voler. Patate reprit.
« Fais qu'il lui faut, fais une amie. »«
Une quoi ?» interrogea encore Gus.
« Une amie. »
Gus Alzan avait déjà entendu ce mot, « amie ». Mais cela correspondait à une idée très vague pour lui. Une sorte de personne qui n'est ni le chef ni l'esclave de quelqu'un. Un concept fumeux qui avait été à la mode il y a très longtemps. Pour le directeur de Tomble, toute personne était au-dessus ou en dessous de lui. Commandant ou commandé. Jomitch au-dessus, tous les autres en dessous. Sa fille, peut-être, se trouvait un peu à part puisqu'elle aurait dû être en dessous, mais grimpait souvent au-dessus. Après quelques réflexions, il en arriva à la conclusion que, personnellement, il n'avait pas d'amis.
« La seule personne que Bernique peut réfléchir, c'est une amie, » répéta Patate.
Gus resta perplexe.
« Où ça s'achète ?»
Patate prit un air mystérieux et expliqua qu'avec son autorisation, il pourrait lui apporter une amie le lendemain. Gus faillit s'étouffer. Si la future amie de Bernique n'était ni au-dessus ni en dessous d'elle, c'est qu'elle était comme Bernique, ce qui multipliait le problème par 2. 2 berniques dans Tomble et la prison explosait. Patate le rassura aussitôt. La jeune personne à laquelle il pensait était un modèle de politesse et de fermeté. Une amie idéale pour Bernique. Elle avait 12 ans. Patate avait rencontré cette amie avant l'hiver. Elle lui avait tout appris. Il venait de la retrouver par le plus grand des hasards aux portes de Tomble. Gus refusa tout net. C'était prévisible. Il était impensable de faire entrer une étrangère dans la prison, surtout en ce moment. S'il arrivait quelque chose, Jomitch lui tomberait dessus.
Et quand Jomitch tombe sur quelqu'un, il n'en reste rien, ou éventuellement un peu de jus sur les côtés. « Alors, je vous laisse, monsieur le directeur, » dit Patate avec tristesse. Il secoua la poussière de son chapeau et sortit. Quand il eut passé la porte, Gus le rattrapa. Le directeur laissa flotter un silence pendant lequel il revit quelques-uns des pires exploits de Bernic. Il avait changé d'avis. « Si votre petite ne convient pas, je vous jette aux oiseaux. » Patate repartit avec une drôle d'impression. Pour être franc, ce n'était pas son idée à lui. Il avait croisé la fille des basses branches et lui avait raconté l'affaire Bernic. Elle lui avait proposé ses services. Patate lui faisait confiance, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la menace des oiseaux. Sa vie était entre les mains de... Comment s'appelait-elle déjà ? Bulle. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Bulle. Bulle entra dans la prison le 24 avril à midi. On la fouilla 16 fois. Elle était conduite par 9 gardiens avec des arbalètes. Bulle était une petite fille au regard droit, avec des vêtements noirs et deux nattes qui formaient des points d'interrogation sur sa tête. Elle avait un curieux visage un peu plat. On la fit entrer dans la salle de jeu de Bernic et on ferma la porte sur elle. Les gardes se répartirent autour de la maison des Alzans. Le soir, à 7 heures, on fit sortir Bulle. Les gardiens s'attendaient à la retrouver en tranche ou en hachis. Elle n'était même pas décoiffée. Gus reçut Bulle dans son bureau. Il était terriblement intimidé par cette fille avec ses yeux de lanceuse de couteau. Il articula. « Je ne viendrai pas demain, » dit Bulle. « Je serai là le jour suivant. » « Bon, ben, d'accord. » Elle alla vers la porte du bureau et se retourna vers Gus. « Il y a un point important. En mon absence, Bernic ne doit frapper personne. Pas une seule bosse, ou tout serait terminé. » Avant qu'elle ne passe l'étroite patte de sortie, au sommet de la boule de gui, on fouilla Bulle 11 fois. On trouva sur elle un petit personnage en bois de la taille d'un pouce. On le lui laissa. Le lendemain, Bernic passa la journée à pleurer sous son lit. Elle était calme, mais ses larmes formaient une petite flaque autour d'elle. Gus alla la consoler, marchant dans les larmes avec ses bottes. Elle ne réclamait pas de prisonniers assommés. Elle demandait son ami. À 7 heures du soir, elle fit une crise de nerfs. Elle déchira son matelas dont elle avala la mousse et ne frappa toujours personne. On envoya 5 hommes chercher Bulle sans qu'aucun d'eux ne puisse la trouver. Le jour suivant, Gus Alzan se leva avant l'aube pour attendre Bulle. À midi, elle se présenta à la porte de Tomble. On la fouilla 16 fois. Elle avait toujours dans la poche son petit personnage grossièrement taillé dans un copeau. 9 gardes l'accompagnèrent à travers la prison. Elle ne jeta pas un coup d'œil aux centaines de prisonniers qui gémissaient derrière les barreaux des minuscules cellules. Cette fille était dure comme le bois de l'année. « Je n'êtes pas venu hier ?» hasarda Gus. « Est-ce que je n'avais pas prévenu ?»«
Si, mais... »
Bulle menaça avec une voix froide. « Si vous préférez, je m'en vais. » Gus s'excusa platement pour la première fois de sa vie, sans compter le jour où, au baptême de Bernic, il avait marché sur le mégot de Mitch. Bulle resta jusqu'à 7 heures avec Bernic et sortit. Gus demanda à lui dire quelques mots. Elle répondit qu'elle n'avait pas le temps. « Je ne viendrai pas demain. Je serai là le jour suivant. » Gus n'osa pas faire de commentaires. Quand on la fouilla à la sortie, personne ne remarqua qu'elle n'avait plus dans la poche le petit bonhomme de bois. 2 jours plus tard, tout se passa de la même façon, sauf qu'en sortant, le soir, Bulle convoqua Gus. Elle le regarda assez longtemps pour qu'il baisse le regard, puis elle articula. « Vous savez ce que je vais vous dire ?»«
Oui, enfin, vous ne viendrez pas demain, mais plutôt le jour suivant. »«
Non, ni demain. » Ni le jour suivant, ni jamais.
Gus garda les yeux fixes. On aurait pu voir, en s'approchant au plus près, une petite palpitation de la lèvre et dans le blanc de l'œil, un reflet de larmes. Une bulle d'espoir venait d'exploser devant lui. C'était fini. Il ne verrait jamais éclore de sa larve repoussante la Bernique de ses rêves, princesse en robe pâle, qui courait vers lui sur une branche déserte en criant « Papa, papa, c'est moi, Bernique !» Il ne la contemplerait jamais sous un voile de mariée, un jeune homme au bras, valsant sur un parquet d'étoiles. Elle resterait la Bernique enragée, barbare, qui épouserait, au mieux, un vieux crâne mou pour y faire pousser des bosses. Une Bernique qui mordrait ses enfants d'honneur et étoufferait sa belle-mère dans la pièce montée. Vous connaissez mes raisons, dit Bulle. Non, gémit du Salzan, mais vous ne pouvez pas me laisser tomber. Bernique va déjà mieux. Molmès.
Quoi?
Molmès ou Molness, ça vous dit quelque chose?
Gus releva des yeux terrifiés.
Non. Bernique affirme qu'hier, elle a frappé un certain Molness pendant mon absence.
Gus regardait fixement Bulle.
Ce n'est pas possible, non. Elle n'est pas sortie de sa chambre.
Mais ce Molness existe bien?
Non.
Le regard de Bulle lui faisait mal jusque derrière la tête. Il corrigea.
Peut-être un nom comme ça, mais ce n'est pas possible.
Bulle dit à Gus Alzan.
Je crois que vous ne comprenez pas bien. Elle ne peut pas le connaître. Elle ne connaît aucun nom de prisonnier.
Bulle se leva de sa chaise, les yeux noirs.
Vous dites que je mens?
Non, non, jamais.
Alors vous dites que votre fille ment?
Non. La réponse était un peu moins ferme.
Bulle dit, venez.
Elle l'emmena dans la chambre de Bernique.
Bernichou, appela Gus en s'approchant du lit. Bernichou, mon chou.
Bernique était sous le lit, entouré d'un nuage de mousse qu'elle avait retiré de son nouveau matelas. Gus essaya de croiser son regard.
Ton ami me dit que tu as fait des bobos à quelqu'un hier?
Elle ne répondit pas. Gus insista.
À qui elle a fait des bobos, la Bernichou?
La réponse surgit de sous la mousse.
L'Olness.
Bulle et Gus se regardèrent et sortirent. Gus ne comprenait plus rien. C'était impossible, rigoureusement impossible. Il essaya une dernière fois de convaincre Bulle en pleurnichant. Mais elle était intraitable. Elle avait donné les règles dès le premier jour.
« Et si... commença-t-il ? »
Il s'interrompit. Bulle fit semblant de ne pas avoir entendu. Elle dit « Au revoir. » Gus lui serra la main. Elle avança de quelques pas vers la sortie. Il la suivait. Il paraissait hésiter.
« Et s'il n'y a pas de bosse sur la tête des prisonniers ?»«
Quel prisonnier ?»«
L'Olness. » « Croyez que ce nom ne vous disait rien ?» s'étonna Bulle, continuant à marcher. « Il y a un couple avec ce nom en quartier de sécurité. »
Bulle s'arrêta immédiatement.
« S'il n'y a pas de bosse sur le crâne de ces Molness, dit-elle, tout sera différent. »
Elle se retournait lentement. Le directeur retrouva un peu d'espoir.
« Je vais voir, je vais vous dire. »
Il partait en trottinant. Bulle le rappela.
« Je ne vous croirai que quand j'aurai touché le crâne des Molness. »
Quoi? C'est impossible.
Je comprends parfaitement.
Au revoir. Elle repartit.
Gus n'en pouvait plus. Attendez!
Trop tard. Je ne veux plus toucher aucun crâne. Ça m'est égal.
Attendez!
Non.
Tant pis. Bon courage avec votre fille. Je vous en supplie. Vous verrez vous-même. Je vais vous emmener dans le cachot des Lolness.
Une heure plus tard, la nuit était tombée. Après plusieurs nouveaux contrôles, Gus et Bulle pénétrèrent dans le quartier de sécurité, une zone aménagée en bas de la boule de Guy. Le quartier était beaucoup plus silencieux. Après différents carrefours, ils débouchèrent devant la cellule 001.
« Voilà, » dit Gus.
Il ne trouvait pas sa clé. Un gardien lui prêta la sienne. Le nom des Lolness était écrit sur une planchette. Gus entra dans la petite pièce. Il était tout pâle. Bulle entra derrière lui. Pour l'encourager, elle lui fit une surprenante petite tape dans le dos.
Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de dire un seul mot. Busalzan était sur ses gardes. Ces deux prisonniers étaient plus précieux que la totalité des 998 autres. Gus avait appris à ne faire confiance à personne dès qu'il entrait dans une cellule. Il ne quittait donc pas Bulle des yeux. Il aurait mieux fait de se méfier plus tôt. Ainsi, elle n'aurait pas dans sa poche la clé de la cellule 001 qu'elle venait de lui dérober. Au lieu de cela, il avait pris le temps de la prévenir qu'aucune communication n'était possible avec les deux prisonniers. Il était formel. Elle devait tâter les deux crânes en silence et sortir. C'est exactement ce qu'elle fit. Il y avait un couple assis sur la banquette. Bulle s'approcha d'eux, ne quittant pas leur regard effarouché. Il posa ses petites mains sur leur tête et fit une très lente caresse. Elle hocha la tête vers Busalzan. Le regard de celui-ci s'éclaira. Il n'y avait pas de bosse. Il fit passer Bulle devant lui et tourna le dos au prisonnier. Sur le dos du directeur, malgré la pénombre, le couple captif pouvait lire une banderole de soie fine qui disait « Courage, votre fils va vous aider. » Bulle, en entrant, l'avait suspendu au seul endroit que Gus ne pouvait surveiller, son propre dos. Elle la détacha discrètement une fois la porte passée. « Bien, » dit-elle en lui tapotant le dos, « je suis rassurée. On va pouvoir passer à l'étape suivante, le pique-nique. » Gus avait l'air satisfait. Il n'avait aucune idée de ce qu'était un pique-nique, mais il imaginait une méthode de pédagogie moderne. Bulle lui expliqua. « Je ne viendrai pas demain. Je serai là le jour suivant et j'emmènerai Bernic en pique-nique.